إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فما زلنا مع قراءة شرح العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مع شرح فضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى وقد وصلنا إلى باب تبرؤ أهل السنة والجماعة مما يقوله المبتدعة في حق الصحابة وأهل البيت. نعم، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى فإذا كان هذا في الذنوب المحققة، الذنوب المحققة أي الواقعة منهم فعلا، الذنوب الواقعة من الصحابة فعلا، وأن لديهم رصيدا من الأعمال الصالحة التي تكفرها، فكيف بالأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ الاجتهاد، ما هو الاجتهاد؟ الاجتهاد هو بذل الطاقة في معرفة الحكم الشرعي، بذل الطاقة في معرفة الحكم الشرعي. قال إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد والخطأ مغفور، كما سبق بيان دليل ذلك قريبا. نعم، donc nous sommes toujours dans le chapitre concernant le désaveu des adeptes de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et du groupe sur la vérité, du groupe sur la voie du prophète, sur la voie de ses compagnons radiyallahu anhum, concernant ce que disent les innovateurs, les hérétiques de l'islam qui dénigrent les compagnons du prophète, qui dénigrent la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ahlul Bayt. Hein, je vous rappelle, Ahlul Bayt, ce sont Sa'id, minhum,
ses épouses.
Non. Donc quand on dit Ahlul Bayt, il y a la maison, ou les gens de la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on parle de la famille du prophète, c'est-à-dire ses épouses. Donc, toutes les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont concernées par Ahlul Bayt. Les enfants. Tous les enfants du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les descendants, sont ou font partie des gens de la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Zid. Non. Banu Hashim. Tous les descendants de Hashim. Hashim, c'est le grand-père du prophète. Donc tous ceux qui descendent de son grand-père, Ahlul Bayt.
Les esclaves affranchis
par le prophète. Non. Pas par le prophète seulement. C'est pour ça qu'il vaut mieux que tu cites d'abord Banu. Pourtant, Bilal Al-Muttalib. Banu Al-Muttalib. Al-Muttalib, à ne pas confondre avec Abd al-Muttalib. D'accord ? Abd al-Muttalib, Mohammed ibn Abdullah ibn Abd al-Muttalib. Abd al-Muttalib, c'est le grand-père du prophète Mohammed. Et Hashim, c'est l'arrière-grand-père. Hashim, c'est l'arrière-grand-père. Al-Muttalib, c'est le frère de Hashim. C'est le frère de l'arrière-grand-père du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc tous les descendants de Al-Muttalib, ils font partie aussi de Ahl-Bayt. D'accord? Non. Et enfin, les esclaves affranchis par tous ces gens-là. Tous les esclaves qui étaient affranchis par les épouses du prophète, les enfants du prophète, Banu Hashim, Banu Muttalib, font partie d'un Ahl-Bayt aussi. Allah Akbar. Non. Enfin, il dit l'auteur, rahimahullah ta'ala, نعم وقد ثبت بقول رسول الله انهم خير القرون وان المد من احدهم اذا تصدق به كان افضل من جبل احد ذهب ممن بعدهم جي شيخ الاسلام ابن تيميه une fois qu'il a été affirmé par la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam que les compagnons sont les meilleurs des générations est la meilleure des générations. Et que ce qu'ils ont donné en aumône de la quantité d'un mout. Un mout, c'est ça. C'est ce que peut contenir deux mains. Ça, c'est un mout. Hein? Cette aumône qu'ils ont donné ces compagnons-là, eh bien, elle a plus de valeur, plus de récompense auprès d'Allah Jalla wa'ala que l'aumône que tu pourrais donner toi ou moi ou le frère dont la quantité serait l'équivalent d'une montagne, la montagne de Uhud notamment en or. Tu donnes de l'or de la quantité d'une montagne, celle de Uhud, et bien sache que ton aumône, elle a moins de valeur, elle a moins de récompense que lorsque Sahaba, il a fait l'aumône d'une quantité des deux mains jointes. Voilà Nasifa, et même pas la moitié. Tu n'atteins même pas la moitié de ça. Donc là, on voit la valeur des compagnons du prophète. Et la récompense qu'ils ont auprès d'Allah Jalla wa'ala, bien sûr, par rapport au travail qu'ils ont fourni pour Allah, pour l'islam, pour le prophète. Ce qu'ils ont enduré comme épreuve, comme la guerre, la torture, la souffrance, l'exil, l'expulsion. ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحو. Il dit que les Sahaba, donc les compagnons restent des humains, des êtres humains, donc ils peuvent commettre des péchés, d'accord. Mais il dit que ces péchés-là qui sont commis par eux, soit ils se sont repentis par la suite, ils ont demandé pardon à Allah Jalla wa'ala, ou soit ils ont commis tellement de bonnes actions que ces bonnes actions-là vont faire que leurs péchés soient pardonnés et expiés et effacés. D'ailleurs, ou alors Allah Jalla wa'ala, comme il dit ici, « أَوْغُفِرَ لَهُ بِفَضْلِ سَابِقَتِهِ أَوْ بِشَفَاعَةِ مُحَمَّدٍ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَلَّذِي هُمْ أَحَقُّ النَّاسِ بِشَفَاعَةِ » Ou alors, ils ont fait des péchés certes, mais Allah Jalla wa'ala, il va leur pardonner. Pourquoi? Parce que ce sont les premiers dans l'islam. Ceux qui se sont, qui ont devancé tout le monde dans les bonnes actions et qui ont accompagné le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans son appel à Allah. Hein? Ou alors, ils seront pardonnés aussi par la cause de l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et vous savez que le prophète, il va intercéder pour la Ummah de manière générale. Mais qui sont ceux qui méritent le plus cette intercession-là, le jour du jugement? Ce sont les compagnons, bien sûr, plus que nous. C'est eux qui vont en profiter le plus. Ou alors, ils ont été éprouvés par tellement d'épreuves, tellement difficiles, que ces épreuves-là sont une cause de l'expiation de leurs péchés. Donc regardez, tout ça pour nous montrer que ce n'est pas pour rien que les sahaba, ils ont un rang élevé, yawm al-qiyama, parce qu'il y a toutes ces causes-là qui font qu'ils vont arriver devant Allah Jalla wa'ala avec un minimum de péché. Hein? Et il dit, فَإِذَا كَانَ هَذَا فِي الذُّنُوبِ الْمُحَقَّقَ فَكَيْفَ الْأُمُورِ الَّتِي كَانُوا فِيهَا مُجْتَهِدِينَ. Il a dit, si on dit ça concernant les péchés qu'ils ont commis, que dire alors des erreurs qu'ils ont commises en ayant fait un effort de réflexion sincèrement pour Allah Jalla wa Ala, afin de faire selon eux la meilleure des choses, ou ce qui est pour eux la chose qu'il fallait faire afin de satisfaire Allah Jalla wa Ala. Que dire alors de ces erreurs-là, qui ne sont pas le fruit d'une désobéissance, mais qui sont le fruit d'un effort de réflexion afin de satisfaire Allah Jalla wa Ala au mieux. Il dit, à ce moment-là, s'ils ont eu raison, s'ils ont fait le bon choix, ils ont deux récompenses. S'ils ont fait le bon choix, ils auront deux récompenses. Et s'ils se sont trompés, ils ont quand même une récompense. Regardez ce point-là. Que dire alors de ces choses-là ? Et l'erreur, elle est pardonnée par Allah Jalla wa Ala. Donc il dit, donc à l'ijtihad, quand on dit faire un effort de réflexion, c'est quoi un effort de réflexion ? Fournir les efforts, faire des efforts, faire ton un. Non. Faire ton maximum, déployer un maximum d'énergie, un maximum d'efforts afin de parvenir à un jugement religieux. Afin d'atteindre le jugement religieux que tu penses être le plus correct et le plus juste. Sincèrement pour Allah. Il ne faut pas rentrer dedans, ni les émotions, ni les passions, ni les envies. Non, ils ont fait ça sincèrement pour Allah Jalla wa Ala. Mais ils restent des humains. Donc il se peut qu'ils se trompent en vérité. Comme les savants aujourd'hui se trompent. Ils peuvent se tromper. Toutes les personnes, comme on l'a dit pendant la Dawra, peuvent, leurs paroles peuvent être réfutées comme eux, ils peuvent réfuter. Taïeb, sauf celle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et les compagnons ne font pas exception à la règle en cela. Naam. Comme on l'a vu, il dit le shir, comme on a vu la preuve de cela précédemment. Naam. Comme il a dit le prophète. La preuve, c'est quoi? C'est le hadith de Abi Huraira qui a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: إِذَا اجْتَهَدَ الْحَاكِمْ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرًا وَإِنْ اجْتَهَدَ وَأَخْطَ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ. Donc la preuve, c'est quoi? C'est la parole du prophète. Parce que le croyant, lui, il adore Allah seulement avec les preuves. Allah, il a dit, le prophète, il a dit. On ne parle pas sous l'effet de la passion ou par ignorance comme le font Nasara, les chrétiens. Il dit le prophète, celui où Al-Hakim, le juge musulman qui va juger dans une affaire, il va faire un effort de réflexion, un effort d'interprétation. Et s'il ajuste, il a deux récompenses. S'il ajuste, il a deux récompenses. Une récompense pour son effort et une récompense parce qu'il a eu juste. Et s'il fait un effort de réflexion, d'interprétation et qu'il s'est trompé, il a quand même une récompense. Il est récompensé pour son effort et pour sa sincérité. Ça concerne seulement, bien sûr, les juges qui sont habilités à faire ça, ou les ulama qui sont habilités à faire ça et qui sont aptes à émettre des jugements et à faire un effort de réflexion. C'est pas donné à n'importe qui. C'est pas moi, un tahir qui va lire Ta'ala Allah, je vais faire un ijtihad et je vais dire hada, il faut fermer la mosquée ou il faut laisser la mosquée ouverte. C'est pas à moi de faire ça. Comprenez? Non. إذن فما يصدر من الصحابي من خطأ على قلته هو بين أمرين
الأول أن يكون صدر عن اجتهاد وهو فيه مأجور وخطأه مغفور.
Donc, pour résumer, ceux qui les actes commis par les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui peuvent être des erreurs malgré leur petit nombre, donc quand on parle des erreurs ou des péchés des sahaba, il faut savoir qu'ils en ont fait très très peu, hein? Ce sont quand même la meilleure génération, donc il ne faut pas imaginer qu'ils commettaient des péchés comme nous, rien à voir, d'accord. Eh bien, ces erreurs-là sont entre deux catégories. La première, une erreur, qui provient quand même d'un effort de réflexion qui a été fait. Eh bien, comme on a dit, dans ce cas-là, le compagnon est récompensé. Dans tous les cas, il est récompensé. Et son erreur, si c'est une erreur, elle est pardonnée par Allah Jalla wa Ala. Et deuxième catégorie, « un yakuna sadara » عن غير اجتهاد عن غير اجتهاد وعنده من الأعمال والفضائل والسوابق الخيرة ما يكفره ويمحو. Deuxième catégorie, une erreur mais qui ne provient pas d'un effort de réflexion. Voyez, une erreur qu'ils ont fait mais ils n'ont pas fait un effort pour rechercher, يعني, qu'est-ce qu'il a dit Allah. Qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam avant de mourir? Mais ils ont pris des décisions, ou alors ils ont commis des péchés sans avoir fait cet effort de savoir si cela est licite, si cela est illicite, etc., etc. Donc les sahaba sont des êtres humains. Et il se peut qu'ils tombent dans ça, dans ce genre d'erreur. D'accord? Et il dit même ces erreurs-là, eh bien, elles sont pardonnées par Allah, elles sont effacées par Allah Jalla wa Ala, parce qu'ils ont fait énormément de bonnes actions. Ils ont énormément de mérites par rapport à nous. Hein? Le fait qu'ils nous aient devancés dans plein de bonnes actions, des choses qu'on ne fera jamais et qu'on ne pourra jamais atteindre. Qui d'entre nous, hein, pourra dire j'ai lutté avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Qui d'entre nous pourra dire j'ai propager l'islam dans le monde entier, j'ai été la cause de la transmission de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Rien que ça, subhanallah, tous les hadiths que l'on connaît, c'est grâce à eux. Ça, on ne pourra jamais l'avoir, ça. On ne pourra jamais l'avoir. Vous voyez? Non. Et donc toutes ces choses-là font que leur péché, dans tous les cas, ils sont effacés, alhamdulillah. وقوله ثم القدر الذي ثم القدر الذي ينكر القدر عفوا ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم إلى آخره هو كتلخيص لما سبق وبيان فضائل الصحابة إجمالا وهي أولا الإيمان بالله ورسوله وهو أفضل الأعمال. قال شيخ الإسلام ثم القدر الذي ينكر من فعلهم قليل نزر مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيل الله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. نعم. Et donc, Al-Qadr, cette petite quantité qui est minime parmi toutes les bonnes actions qu'ils ont faites, elle va être noyée en vérité. Ça va se noyer dans tous les mérites qu'ils possèdent, dans toutes les bonnes actions qu'ils ont faites. Et parmi les meilleures des bonnes actions, bien sûr, chéri l'islam, le fait qu'ils aient cru en Allah, à son messager, le fait qu'ils aient lutté dans le sentier d'Allah, le fait qu'ils aient émigré et qu'ils ont abandonné leur pays, leur famille, leur maison, leurs biens pour Allah Jalla wa Ala, le fait qu'ils aient secouru l'islam, la religion d'Allah, le fait qu'ils aient propagé la science profitable ainsi que les bonnes œuvres. C'est pour ça qu'il dit Cheikh Al-Fawzan Hafidhahullah Ta'ala, en résumé, hein, on peut regrouper les mérites des compagnons
en quelques points. Premier point, le fait qu'ils aient cru en Allah. La foi en Allah et à son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Donc cette action-là, c'est la meilleure bonne action. C'est la meilleure des bonnes actions. Donc, nous aussi, on croit en Allah. Et on croit au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Mais pas dans les mêmes circonstances. Pas dans les mêmes circonstances. Eux, quand ils ont cru en Allah, personne n'était musulman. Ou très peu. Ou très peu. Vous voyez ? Pour la plupart d'entre nous, hein, on est né sur l'islam. Vous voyez ? Vous êtes né dans une famille musulmane. Alors que les sahaba, eux, ils ont vécu des années, des années et des années dans al-jahiliya, dans l'ignorance, le shirk, des choses bizarres. Vous voyez ? Donc ce n'est pas la même situation, rien à voir. ثانيا الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمات الله وهو ذروة سنام الإسلام. Deuxième caractéristique qu'il possède et que l'on n'a pas, la lutte dans le sentier d'Allah Jalla wa Ala, afin d'élever la parole d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Et cette lutte dans le sentier d'Allah, il dit, c'est le sommet de l'islam. ذروة سنام, le sommet de l'islam, la cime de l'islam. ثالثا الهجرة في سبيل الله. الهجرة في سبيل الله وهي من أفضل الأعمال. Troisièmement, troisième mérite qu'ils ont, les compagnons, sur nous, le fait qu'ils aient émigré dans le sentier d'Allah. Ils ont abandonné leur pays, ils ont abandonné leur famille, leur maison, leurs biens, et certains étaient des commerçants, des gens très riches. Ils ont tout abandonné. Ils ont tout abandonné. Hein? D'ailleurs, contrairement à nous, nous, si on fait la hijra, hein, en Algérie, si on est riche, on va prendre tous nos biens avec nous. On ne va pas le laisser en France. On ne va pas dire, non, je vais au blé, je laisse mon argent ici. Je le prends. Même si il est douteux, je vais le prendre quand même. Inch'Allah. D'ailleurs, ils ont tout laissé. Ils ont tout laissé. Et ils sont partis. Jusqu'à ce qu'ils arrivaient là-bas, ils n'avaient pas de maison, ils n'avaient rien. Et alhamdoulilah, ils ont été bien accueillis par les Ansar. Donc, l'hijra fi sabilillah est l'une des meilleures actions auprès d'Allah. Rabi'an, an-nusratu li dinillah. Qala ta'ala fihim, wa yansuruna Allah wa rasoola, ulaika humus sadiqun. Quatrièmement, le fait qu'ils aient secouru, qu'ils aient défendu la religion d'Allah Jalla wa Ala. Allah, il a dit à leur propos, et ils ont secouru Allah. C'est-à-dire, est-ce qu'Allah il a besoin qu'on nous secoure? Là. Ça veut dire qu'ils ont secouru la religion d'Allah. Ils ont défendu la religion d'Allah, Jalla wa Ala, ainsi que son messager. Son messager, na'am. Le messager, ils l'ont défendu. Ils l'ont secouru contre ceux qui voulaient le tuer. Hein? Oulaika hum sadiqun. Ceux-là sont les véridiques. Khamisan, al-ilm an-nafi' wa al-amal as-salih. Cinquièmement, la science. Imaginez-vous les frères. L'ulama, sahaba, ulama. Taïeb, chacun en fonction de son niveau de ilm. Ils n'avaient pas tous le même niveau, bien sûr. Mais ce sont quand même des gens qui ont vécu la révélation. Qui ont vécu en direct, en vrai. La science. Et bien sûr, les bonnes actions. سادسا انهم خير الخلق بعد الانبياء الله هذه فائده عظيمه خير الخلق بعد الانبياء فامه محمد صلى الله عليه وسلم خير الامم كما قال تعالى كنتم خير امه اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله تذكرون الفائده ذكرها الشيخ وخير هذه الامه صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله صلى الله عليه وسلم خيركم قرني ثم الذين يلونهم الحديث. Sixièmement, le fait que les Sahaba sont les meilleures des créatures après les prophètes. Quand on dit les Sahaba, les compagnons, on parle des compagnons du prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم. On ne parle pas des compagnons de Jésus. ou des compagnons de Moïse, ou des compagnons d'Ibrahim, ou des compagnons de Nouh, ou des compagnons de Yaqub, ou des compagnons d'Ismaël, qui ont leur mérite aussi, subhanallah. D'ailleurs, mais si on prend tous les compagnons, tous les apôtres, comme ils disent pour Jésus, ils disent les apôtres, eh bien, sache que les meilleurs de ces compagnons-là sont ceux du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Allah Akbar. Comme disent les ulama. Car la communauté de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, est la meilleure des communautés. Déjà, premièrement, la preuve, c'est quoi? C'est que la communauté de Mohammed est la meilleure des communautés. Elle est mieux que celle de Isa. Elle est mieux que celle de Moussa. Elle est mieux que celle d'Ibrahim. Elle est mieux que celle de Noah. Allah, il dit quoi? De le sens rapproché. Vous êtes la meilleure communauté qu'on a fait sortir aux gens. Vous êtes la meilleure communauté qu'on a fait sortir aux gens. La preuve, elle est claire ici. Vous ordonnez le convenable, vous interdisez le blâmable et vous croyez en Allah. C'est quoi la faïda, Medjane? Ici.
La faïda, c'est que on ordonne le blâmable, on ordonne le convenable avant l'iman.
Ahsant. Vous remarquerez ici, Allah Jalla wa'ala, il n'a pas commencé par la foi en Allah. Il a commencé par le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Avant de dire, et vous croyez en Allah. Cela nous montre l'importance déjà d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Et que ça fait partie des particularités de la umma de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et que celui qui délaisse ça, Allah il va le délaisser. Dans la même sourate, quelques versets plus tard, qu'est-ce qu'il dit Allah quand il parle des Yahoud? Hein? L'aya. L'aya. Juste, je veux le verset comme ça. Claire. Mokhtar, tu te rappelles ou pas? Tu étais là quand Chéri l'a dit ça?
Non.
Tu n'étais pas là? Non. Donc, c'est le verset qu'on a cité par rapport à la Ummah de Muhammad, Surat Ali Imran, verset 110. Taïeb. On descend plus bas, verset. Verset 114. Verset 114, ou 113 d'abord. 113, Allah dit Laysu sawa'an min ahli al-kitab, ummatun qa'imatun. يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَا أَلَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ. Dans le sens rapproché, Allah dit, mais ils ne sont pas tous pareils. Il est parmi les gens du livre une communauté droite. Donc quand on dit les gens du livre, Allah il parle des chrétiens et des juifs. Il dit, parmi eux, il y a une communauté droite qui, aux heures de la nuit, récite les versets d'Allah en se prosternant. Qu'est-ce qu'il dit juste après? Yu'minuna billah wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khayrat wa ulaika minas salihin. 114 verset 114, Allah dit à propos des gens du livre, ils croient en Allah et au jour dernier ordonnent le convenable, interdisent le blâmable. Vous remarquerez, pour eux, Allah il a commencé par ils croient en Allah. Et puis, ils ordonnent le convenable et interdisent le blâmable. Il dit les chers, parce que celui qui délaisse l'ordonnance du bien et l'interdiction du mal, Allah, il les délaisse comme il les a délaissés à eux. Lorsqu'ils ont abandonné l'ordonnance du bien et l'interdiction du mal, Allah, il les a abandonnés aussi. Vous voyez? Non.
Tu as vu dans ce verset, les juifs et les chrétiens, Bien sûr, ce qu'ont suivi Issa et Moussa à leur époque.
Il faut revenir après la. Il faut revenir au tafsir, Inch'Allah Ta'ala. Il faut revenir au tafsir, Bi'idna Ta'ala.
Je voulais dire que ça veut dire, c'est pas les chrétiens juste de nos jours.
Oui, j'ai compris la.
Pour l'expliquer
la question, j'ai compris la question là. Non. faut revenir après au tafsir du verset. En détail, inshallah. Allah a'lam. Donc, la meilleure des communautés, c'est celle de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et les meilleurs de la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce que quand on dit la communauté de Mohammed, ça veut dire tous les gens qui l'ont suivi jusqu'à la fin des temps. Tous ces gens-là sont la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais parmi tous ceux qui ont suivi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les meilleurs sont les compagnons. Les meilleurs sont ceux qui ont rencontré. Donc c'est quoi un compagnon? Quand on dit les compagnons, pour savoir ce que c'est vraiment. Qu'est-ce que c'est, Yassine, un compagnon?
C'est quelqu'un qui a rencontré le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et qui a cru son message, et qui est mort dessus.
Ahsan. Donc un compagnon, la définition même du compagnon, c'est une personne qui a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a cru en lui et qui est mort sur la foi. Ça, c'est un compagnon. Donc tous ceux qui ont rencontré le prophète, même ne serait-ce que quelques minutes, il s'est assis avec lui, il a rencontré quelques minutes, il a cru en lui et il est mort sur ses compagnons. D'accord? Donc parmi toute la communauté de Mohammed, les meilleurs, ce sont les compagnons. Car il dit, le prophète lui-même, c'est lui qui le dit. Il a dit, khayrukum qarni, les meilleurs d'entre vous, c'est ma génération. C'est ceux qui ont vécu durant ma période. Hein? Ensuite, ceux qui les suivent, et dans une version, ensuite ceux qui les suivent. Le hadith. D'accord? C'est-à-dire qu'après les compagnons, en termes de valeur, ce sont la génération d'après, qu'on les appelle At-Tabi'un. At-Tabi'un, ce sont ceux qui ont rencontré les compagnons en étant croyants et qui sont morts sur la foi. Ça, c'est At-Tabi'un, les suiveurs. Et on a la génération aussi d'après, ceux qui ont rencontré At-Tabi'in et qui sont morts sur la foi, etc. Vous voyez? Ça, c'est les trois meilleures générations. Les trois meilleures générations dans la Ummah, sans aucun doute. Sabi'an annahum as-safwatu min qurun hadhihi al-umma allati hiya khayrul umam wa akramuha 'ala Allah kama fi al-hadith alladhi rawahu al-Imam Ahmad anna an-nabiyya 'alayhi salatu was-salam qala antum tufuna 70 umma antum khayruha wa akramuha 'ala Allah subhanahu wa rawa at-Tirmidhi wa Ibn Majah wa al-Hakim fi mustadrakih al-hadith Hassan. Et enfin, septièmement, le fait que ce sont, yani, à sa foi, l'élite de la communauté, est la meilleure des communautés. Donc, ils ont rassemblé les deux ici. Le fait que c'est la meilleure communauté, et en plus, ce sont les meilleurs des communautés. C'est la meilleure communauté, et ce sont les meilleurs de cette communauté-là. Taïeb. Et que pour Allah, Jalla wa Ala, c'est la plus noble, la plus méritante. Comme il a dit le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par l'imam Ahmed, et qui est un hadith hassan, qui est bon, il dit, « Antum tufuna sab'ina umma. » Vous allez, le jour de la résurrection, compléter une quantité de communautés à 70. Les ulama disent, là on parle des communautés les plus grandes. Des plus grandes communautés, la communauté de Mohammed qui est arrivée donc en dernier, chronologiquement c'est la dernière, elle va compléter le nombre de 70 communautés. D'accord? Il dit, le prophète, « Antum khayruha wa akramuha Allah. » Vous êtes la meilleure d'entre elles et la plus noble d'entre elles. Pour Allah Jalla wa Ala. Hadith est clair. Nah. Rapporté par Tirmidhi, Ibn Majah, Al-Hakim. C'est bon, les frères?
Non, encore une fois, il y a les mains, ils disent que ce sont les plus grandes communautés. Ça veut dire que c'est peut qu'il y a d'autres communautés plus petites, donc qui n'ont pas été incluses dans les 70. Allahu a'lam. Voilà. Le nombre, il n'est pas important. En vérité, le fait d'ignorer le nombre, ça ne nuit pas. Et des ulama qui disent même que des fois, le chiffre 70, qu'on entend souvent dans les hadiths, 70, ils disent en vérité, dans la langue arabe, ça peut exprimer juste une grande quantité. Hein? C'est comme des fois en français, on va dire des chiffres énormes, ouais, 10 000, 100 000, pas pour dire qu'il y en a 10 000, pour dire qu'il y en a beaucoup, énormément. Hein? C'est une genre d'expression pour dire beaucoup. Et voilà. Et en arabe, ça existe en arabe, ça aussi. Tu peux dire, comme ici, yani 70, pour dire beaucoup. Tu vois? Donc des fois, ce n'est pas forcément le chiffre qui est. Tu vois? Là, les ulama disent non. Ils disent, Zahir al-Nas, ce qui est apparent du texte, c'est le chiffre. Donc on ne peut pas interpréter autre chose. Allah a'lam.
Comme 1000 pattes. Hein? Le 1000 pattes
aussi. 1000 pattes. Tu les as comptés, hein? Non, 1000 ou là? Je pense pas qu'il y en a. Voilà, 1000 pattes. Ahsan. Non, alhamdoulilah. Jayid. Non. N'entakil ila. Ben. Madhhabi. Ahli sunnati wal jama'a. Fi karamati al-awliya. Fi karamati al-awliya'i. Il n'y a personne qui a le livre, Bofosan. Mais il n'y a pas le kitab. Il y a le kitab, il y a le bait. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات والمعثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر فرق الأمة وهي موجودة في هذه الكرامات هي موجودة فيها في هذه الأمة إلى يوم القيامة. نعم. Quelqu'un à la traduction? Personne? Allez voir? Ah, pas sérieux? Donc, on va traduire petit à petit. قال شيخ الفوزان قوله ومن أصول أهل السنة أي من أصول عقيدتهم. هذا من أصول عقيدتهم. من أصول السنة. التصديق بكرامات الأولياء أن تصدقها. الكرامات جمع كرامة وهي ما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات. فالكرامة ما هي؟ هي أمر خارق للعادة أي خارج عن العادة أي لمألوف الآدميين. والأولياء جمع ولي. ومن هو الولي؟ هل هو الذي يعني يطير في السماء أو يمشي على ماء؟ لا، قد يكون هذا، قد يكون، لكن الولي هو المؤمن المتقي. المؤمن المتقي. فأنت إذا كنت مؤمنا تقيا أنت ولي من أولياء الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هؤلاء أولياء الله، سمي وليا اشتقاقا من الولاء، والولاء هو المحبة والقرب. فولي الله من والى الله بموافقته في محبوباته وتقرب إليه بمرضاته. Donc il dit, Cheikh al-Islam, rahimahullah ta'ala,
parmi les fondements des gens de la sunna. C'est-à-dire parmi les fondements de la croyance des gens de la sunna. Donc les fondements de la croyance. Donc là, on n'est pas en train de parler des branches. Parce qu'on a les fondements, on a les bases, après on a les branches. D'accord ? Vous savez que, comme il dit l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, celui qui contredit un seul des fondements de la sunna, il sort de la sunna. Hein? Celui qui contredit un seul des fondements, il sort de la sunna. Il ne fera plus partie des gens de la sunna. Donc parmi ces fondements, le fait de croire, at-tasdiq, le fait de croire au miracle, voilà. Prodige, ahsant. Les prodiges des alliés d'Allah. Le fait de croire que les alliés d'Allah, Allah il peut mettre entre leurs mains des prodiges. D'accord ? Donc, al-karamat, c'est le pluriel de karama. Un prodige. Et c'est quoi un prodige ? Eh bien, c'est une chose extraordinaire. En arabe, on dit khariq lil'ada. Qui sort de ce qui est ordinaire. En français, on dit extraordinaire. Falkarama, un prodige sort de l'ordinaire. C'est-à-dire sort des habitudes de ce que connaissent les humains. Un adamiyoun. Ou de ce qui est connu chez l'être humain. Hein? Donc les alliés d'Allah Jalla wa Ala, al-awliya, qui est le pluriel de wali. On dit un wali, on dit awliya au pluriel, les alliés. Donc c'est quoi un allié d'Allah ? Est-ce que c'est forcément quelqu'un qui va voler dans les airs ou marcher sur l'eau ? Non, pas forcément. Ça peut être un allié d'Allah, bien sûr, qui fait ça. Mais à la base, un allié d'Allah, c'est un croyant pieux. Un croyant pieux. Tout croyant pieux est un allié d'Allah. Si toi tu es croyant et que tu es pieux, tu mérites l'appellation Waliullah. Un allié d'Allah. La preuve c'est quoi? Dans le sens rapproché, Allah dit, surat Yunus, certes, les alliés d'Allah, sur eux, aucune peur, aucune crainte. Et ne ressentent aucune tristesse. Et c'est qui les alliés d'Allah? Allah il dit ceux qui ont cru et qui ont fait preuve de piété, de crainte. La croyance, la foi et la crainte religieuse, la piété. Et en arabe, on les a appelés comme ça, wali, parce que cela est tiré du mot al-wala. Al-wala wal-bara. Al-wala, ça veut dire quoi en arabe? Al-wala, c'est l'amour et la proximité. Il y en a vu aussi chez certains, dans le charh, dans le livre de l'islam, c'est un nusra, le soutien, l'aide. Donc al-wala que tu as pour quelqu'un, c'est le fait que tu l'aimes et que tu le soutiennes, que tu es proche de lui. C'est ça al-wala. D'accord? Donc al-wali, c'est ça. Al-wali, c'est quelqu'un qu'Allah il aime, qu'Allah il aide. Et qu'Allah, il est proche de lui. Hadawa al-wali. Et c'est celui également, donc il va aimer Allah. Dans les deux sens, ça marche. Qui va aimer Allah, Jalla wa Ala. Et qui va suivre la religion d'Allah, Jalla wa Ala, en faisant en sorte d'être en adéquation avec ce que Allah, il aime. C'est ça, un allié d'Allah. Il va tout faire pour être en adéquation avec ce que Allah il veut, ce que Allah il agrée, et il va se rapprocher d'Allah Jalla wa Ala par les choses qu'Allah il aime et par les choses qu'Allah il agrée. Ça c'est un allié d'Allah. Qu'Allah il fasse qu'on fasse partie des alliés d'Allah Jalla wa Ala. Wa karamat al-awliya haqq. وقد دل عليها الكتاب والسنة والآثار المتواترة عن الصحابة والتابعين. Et il dit donc, Cheikh Al-Fawzan, Fidhaullah Ta'ala, que les prodiges des alliés d'Allah sont une vérité. une réalité. Comme nous l'indique le Coran, comme nous l'indique la Sunna, et comme nous l'indique tous les récits qui nous ont été rapportés par les prédécesseurs. Jusqu'au jour d'aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Des récits qui sont mutawatir. C'est-à-dire qu'ils ont été rapportés de génération en génération en génération par un nombre important de gens. Qui fait qu'il est impossible que tous ces gens-là se soient mis d'accord pour forger un mensonge. C'est impossible. Vous voyez ? Ces récits, on les appelle mutawatira. Comme les hadiths mutawatira. Les hadiths qui ont été rapportés par, à chaque niveau de transmetteur de hadith, par d'innombrables personnes, qui fait que le complot, il y a hadith, on peut dire, le complot de mensonge est impossible. Non. Fannas fi karamat al-awliya ala thalathati asnaf. الصنف الأول من ينفيها من المبتدعة كالمعتزلة والجهمية وبعض الأشاعرة وشبهتهم ما هي شبهتهم لماذا ينفون الكرامات أن الخوارق لو جاز ظهورها على أيدي الأولياء لالتبس النبي بغيره إذ الفرق بين النبي وغيره والمعجزة التي هي خرق العادة. Donc il dit que les gens, concernant les prodiges des alliés d'Allah Jalla wa Ala, sont de trois catégories. La première catégorie, ceux qui les renient, ceux qui ne veulent pas y croire, parmi les innovateurs, parmi les hérétiques de l'islam, parmi les groupes égarés de l'islam, tels que Al-Mu'tazila, tels que Al-Jahmiya, ou certains parmi les Asha'ira. Et c'est quoi leur ambiguïté? C'est quoi la raison pour laquelle ils ont refusé d'y croire? Il dit les Shaykh, parce qu'ils disent que ces choses-là, qui donc sont extraordinaires, si elles existaient vraiment, et qu'elles sont entre les mains des alliés d'Allah, qui ne sont ni des prophètes, ni des messagers, eh bien, ça vous amènerait à croire que certains peuvent être des messagers ou des prophètes. Ça reviendrait à mélanger quelqu'un qui n'est pas prophète avec quelqu'un qui est prophète, à les mettre au même niveau. Comprenez leur choubha, leur ambiguïté? Parce qu'ils disent que la différence entre un prophète et entre quelqu'un qui n'est pas un prophète, c'est justement ça. C'est justement que les prophètes sont venus avec des choses extraordinaires, qui font qu'on ne peut pas renier leur prophétie. Hein, comme Moussa alayhi salam, qui est venu avec le miracle du bâton, le miracle de la lumière dans sa main, le miracle de la mer qui s'est ouverte en deux, etc. Ça, c'est des miracles. Naam. Donc, ils disent, si des gens qui ne sont pas prophètes, eux aussi, ils ont des choses comme ça, comment on va faire la différence? Comment on fait? C'est pas possible. Ça y est? Mais c'est une ambiguïté à laquelle on va répondre, inshallah ta'ala, que le shirk va réfuter. As-sinf al-thani, man yaghlu fi ithbat al-karama. Al-aks. Man yaghlu fi ithbat al-karama. Min ashab al-turuq al-sufiyyah. Wal-quburiyyin. Al-ladhina yajjalun ala al-nas. Wa ya'tuna bi khawariq shaytaniyya. Kadukhul al-nar. وضرب أنفسهم بالسلاح وإمساك الثعابين وغير ذلك مما يدعونه لأصحاب القبور القبور من التصرفات التي يسمونها كرامات. Et la deuxième catégorie, celle qui est à l'opposé de la première, celle qui est à l'opposé de la première, celle qui va affirmer ces prodiges-là, mais avec exagération. Ils vont exagérer dans l'affirmation de ces prodiges. Et parmi eux, les groupes égarés des soufis. Certains parmi les soufis ou parmi les adorateurs des tombes qui vont faire croire aux gens certaines choses et qui vont croire dans des choses extraordinaires, mais qui sont en vérité des choses diaboliques et démoniaques. Hein? Comme lorsqu'ils font croire aux gens qu'ils arrivent à entrer dans le feu sans se brûler. On l'a tous vu ça, ou certaines choses. Le fait de marcher sur la braise sans se brûler les pieds. Comme ils font hein, la plupart en Inde ou ailleurs, ce genre de choses bizarres. Le fait de se frapper soi-même avec des armes, des épées, ils se plantent, avec des aiguilles, des choses comme ça. Ils n'ont rien. Ils n'ont pas de blessures ou de cicatrices. Ça y est, le fait de tenir un serpent venimeux, un cobra, et qu'ils arrivent à, soi-disant, contrôler le cobra, etc. Et ils se disent, regardez, c'est des prodiges, c'est des miracles. Donc on est des alliés d'Allah, subhanahu wa ta'ala, alors qu'en vérité, ce sont que des choses hein, qui ne peuvent se faire qu'après avoir fait un pacte avec les shaitans, avec le diable, qui va les aider dans leur égarement et leurs mensonges. C'est que des mensonges. C'est des imposteurs. Ou des choses qui vont faire croire aux gens que c'est le mort qui est en train de faire la chose. Ils disent, regarde, t'as vu, c'est le mort qui est en train de faire ça. Ça y est.
Les excréments.
C'est-à-dire.
Ils font manger pour le barakah.
Ils mangent les excréments de leur machaïr. De leur machaïr, ça c'est... Il y a une vitamine... Ça protège du corona, voilà. Et là, ils appellent ces choses-là, ils les appellent karamet, prodige. Alors qu'en vérité, c'est du sihr, c'est de la sorcellerie, c'est du charlatanisme. Et là, le sidf thalith, alladhina dhakarahum shaykh huna. وهم أهل السنة والجماعة نواصل بعد الأذان إن شاء الله
الله أكبر الله أكبر
الله
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Thank you.
القسم الثالث الذين ذكرهم الشيخ هنا وهم أهل السنة والجماعة فيؤمنون بكرامات الأولياء ويثبتونها على مقتضى ما جاء في الكتاب والسنة ويردون على من نفاها بحجة منع الاشتباه بين النبي وغيره بأن هناك فوارق عظيمة بين الأنبياء وغيرهم عن خوارق العادات غير خوارق العادات وأن الولي لا يدعي النبوة ولو ادعاها لخرج عن الولاية خرج عنها وصار مدعيا كذابا لا وليا كمان مسيلمة كذاب ومن سنة الله أن يفضح الكاذب أي نعم كما حصل لمسيلمة الكذاب قال الشيخ وغيره ويردون على من غلا في إثباتها فادعاها المشعوذين والدجالين بأن هؤلاء ليسوا أولياء الله وإنما هم أولياء للشيطان وما يجري عليهم إما كذب إما تجيل أو فتنة لهم ولغيرهم واستدراج والله أعلم. La troisième catégorie sont ceux que l'auteur il a mentionné, c'est-à-dire les gens de la Sunna, les adeptes de la Sunna et du groupe sur la vérité, qui croient aux prodiges des alliés d'Allah Jalla wa Ala et qui les affirment conformément au livre d'Allah et à la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les gens de la Sunna, ils ont et ils réfutent ceux qui n'y croient pas et qui disent que s'ils existaient, eh bien, celui qui est prophète et celui qui n'est pas prophète seraient pareils. Ils se ressembleraient les deux alors. Elle est où la différence ? Ils te disent, là, au contraire, il y a des différences énormes entre le prophète et celui qui n'est pas prophète. Il ne faut pas juste faire une fixation sur ces prodiges ou ces miracles. Il faut regarder les autres différences aussi qu'il y a entre les deux. Et parmi ces différences, est que l'allié d'Allah, il n'a jamais prétendu être un prophète. Et si la personne prétend être un prophète parce qu'elle a marché sur des braises ou parce qu'elle s'est planté un couteau dans la bouche et qu'elle ne saigne pas, hein, qu'elle arrive à faire des choses qui sortent de l'ordinaire, on dit que celui-là n'est pas un allié d'Allah. C'est pas un allié d'Allah, c'est un allié de Shaitan. Hein, celui qui dit je suis un prophète, c'est un allié de Shaitan. Vous voyez, et c'est un grand menteur. Il fait partie de la sunna d'Allah, c'est-à-dire des méthodes d'Allah Jalla wa Ala, et bien de dévoiler le menteur, comme il a dévoilé Musaylima, Al-Kadhab, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et autres que lui. Hein? Et il réfute aussi ceux qui ont exagéré dans l'affirmation de ces prodiges tels que les imposteurs parmi les soufiyines et les menteurs taïf et qui ont dit que ce sont des prodiges etc. Eh bien les gens de la sunna ils disent que cela ne sont pas des alliés d'Allah en aucun cas mais ce sont les alliés du diable et que ce qu'ils ont ce qu'ils font ou ce qu'ils arrivent à faire et qui sortent de l'ordinaire ne sont que des impostures et des mensonges et des égarements et une tentation parce que ce qu'ils font ne peut se faire qu'avec la permission d'Allah dans tous les cas donc si Allah Jalla wa'ala leur permet quand même de faire certaines choses avec les shayadines, les diables eh bien c'est une épreuve pour eux en vérité c'est une tentation pour eux et pour les autres aussi donc Allah il va tester les gens. Est-ce que les gens ils vont suivre ce qui est apparent ou est-ce qu'ils vont se baser sur Allah il a dit, le prophète il a dit. C'est une épreuve. Hein? Et ça peut être aussi un istidraj, C'est quoi un istidraj de la part d'Allah? C'est le fait qu'Allah, il amène la personne à l'égarement progressivement. Istidraj. Il va lui laisser dans son égarement. Allah, il est capable de faire que la personne ne puisse pas faire ce qu'elle fait. Allah, il est capable, mais il la laisse. Il la laisse dans son égarement pour l'égarer encore plus. Et pour que le jour où Allah le décidera, eh bien, il ne pourra pas lui échapper. Et son châtiment sera terrible ce jour-là. Hada istidraj. Hada istidraj. Comme des fois, certains, Allah musta'an, parmi les juhal, les awam, ils vont aller devant une tombe. Une femme qui n'arrive pas à tomber enceinte, elle va aller devant la tombe d'un saint, soi-disant, Sidi Foulan. Elle va demander aux morts pour tomber enceinte. Ne demande pas à Allah. Elle demande aux morts qu'il fasse qu'elle tombe enceinte. A'udhu billah. Et elle tombe enceinte. Ah, la fitna. Elle tombe enceinte. Ça, c'est une fitna de la part d'Allah Jalla wa'ala. Cheikh al-Islam a dit, soit elle est tombée enceinte parce que Allah il avait décrété déjà depuis longtemps qu'elle devait tomber enceinte, donc il n'a rien à voir le mort. Il n'a rien à voir. Ou soit Allah il le fait exprès pour, comme on a dit, bilistidraj, pour la mener vers sa perte. Parce qu'elle n'a pas écouté les conseils. Lorsqu'on lui a dit non, elle a shirk billah, elle n'a pas écouté. Allah il a abandonné. Allah musta'an. Allah a'ala. Déjà, Allah
akbar. Ça passe trop
loin. Devoir pour le prochain cours. Quand, je ne sais pas. On vous tiendra au courant, inshallah. Pour le prochain cours, la différence entre une mu'jiza et une karama. C'est quoi la différence entre une mu'jiza et une karama? Entre un miracle et un prodige. Voyez? Pour la prochaine fois, inshallah. C'est bon, les frères? Barakallahu fikum. Wa al-ilmu 'indallah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه إخوانه وسلم تسليما والله أعلم.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد